Bienvenue au Polysécur, épisode spécial sur le Sécur. Je suis avec Frank.
Oui, salut Nicolas, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver.
Ça va bien?
Oui, écoute, depuis le Sécur, je me suis remis.
Bien heureux de l'entendre.
Bien heureux, effectivement, après 2h30 de présentation, mais toute la préparation qu'il a fallu. Mais écoute, ça s'est très très bien passé. Les retours ont été... En tout cas, sur place, très bon, parce que je vois, t'en as eu aussi des très bons, donc j'en suis ravi que c'est plu à toutes les personnes qui ont pu l'entendre.
C'est excellent. Fait que là, on fait un retour. C'est sûr qu'on ne reparlera pas exactement de ce que tu as présenté. Les gens, allez voir ou allez payer le petit montant pour aller voir les rediffusions. C'est encore disponible jusqu'au 2 juin. Fait que allez voir si vous n'avez pas déjà vu. Essentiellement, première chose, l'histoire t'a donné raison, même si ça fait pas très longtemps, on enregistre le 17 mars, le jour de la Saint-Patrick, qui est pas très longtemps après, 2 semaines après le Sécur. Puis justement, le temps t'a donné raison sur ce que t'avais présenté.
Incroyable, écoute, comme si c'était écrit ou me faire plaisir éventuellement déjà de l'actualité presque d'une année assez riche en 2021, 2022, surtout au travers d'FTX et de toutes les cassures qu'il y a eu, et puis le bear market évidemment qui a été notifié au travers du Bitcoin, mais là au travers du Bitcoin de la compréhension comme la présentation a pu le donner, mais là au travers de cette présentation, la première partie de la présentation montrait évidemment les faiblesses bancaires ou montrait les faiblesses évidemment de tout ce que avait fait évidemment nos gouvernements au fur et à mesure et depuis Bretton Woods et jusqu'à à l'arrivée évidemment de 71, du bloc 73, enfin du choc pétrolier en 73, évidemment de la problématique de la crise asiatique en 97 et évidemment du fameux subprime en 2008. Hein, où là, j'ai précisé que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le blaze pour faire la blague, ou en tout cas la cerise sur le sundae pour les cypherpunk, où là, ils ont dit, écoutez, là, trop, c'est trop. Et c'est là où le groupe, ou la personne, mais c'est plutôt le groupe, Satoshi Nakamoto, a dit, OK, on va vous livrer quelque chose que nous seuls, peut-être, pouvons livrer en termes de cryptographie, de cryptologie, et la technologie était évidemment là pour arriver à dire que là, le système, évidemment, bancaire... tel qu'il est fait, tel qu'il est, et dont la monnaie est politisée, hein, je rappelle que tout l'aspect était politisé, a fait. Et là, pas plus tard qu'il y a à peu près une dizaine de jours, même pas la semaine dernière, l'USDC. Donc on a peu parlé, évidemment, j'ai malheureusement, et c'est là-dessus qu'on va évidemment revenir sur la partie de l'écosystème du Web3, puisque tout ça amène évidemment le Web3 et le Web4. Puis ça, on va juste en parler brièvement pour la suite, mais effectivement, tout ça amène un écosystème parce que ça a amené d'autres technicités. On en a parlé pendant la deuxième présentation, la technicité évidemment des proof of work, des proof of stake, de la partie de la blockchain, la partie de la décentralisation, le fameux DEX ou le fameux SEX, ça fait très rire, mais c'est le CEX, hein, DEX ou SEX, donc centralisé ou décentralisé, et évidemment amène son lot autant du côté monnaie avec le fameux DeFi, ou les points, et donc là-dedans, et c'est pour ça que je me permets d'expliquer un petit peu tout ça avant d'accéder à l'annonce, c'est que dedans il y a ce qu'on appelle des stablecoins. Les stablecoins n'ont pas été, ils ont été là encore une fois pour conditionner cette fameuse monnaie dette. Hein. Je vous rappelle que le Bitcoin pour moi est la monnaie de valeur ou de refuge valeur, comparez-le à l'or, et un bien précieux avec évidemment une fin, hein, comme vous le savez, sur les 21 millions. Mais même à côté, là, il y a évidemment toute la partie DeFi. Alors les maximalistes Bitcoin diront c'est de la merde, c'est du shitcoin, c'est de l'alcool, mais ils n'auront pas le choix parce que c'est la monnaie du futur. Comme on le dit, c'est ce que nos gouvernements ont fait. Si tout le monde gardait l'or à aujourd'hui, bah, comment l'économie fonctionnerait? On est bien obligé que pour qu'une économie fonctionne, de prêter de l'argent. Exemple, on les prête aux États, des États les prêtent aux États, et les États les prêtent après aux entreprises, des entreprises les prêtent évidemment aux gens. Comment vous payez votre maison? Si vous dites que vous êtes capable de la payer cash, il y a peu de personnes qui sont capables. Donc, on est bien obligé de poursuivre sur le futur, comme notre retraite, ou comme les caisses à répartition, comme notre système de services de santé, ou comme notre système de retraite au travers de ça. Après, il y a différents pays qui le font un peu différemment, mais si vous prenez la France, il y a une grosse grève en ce moment, tout le monde brûle, tout le monde fait le pari sans mauvais, avec évidemment les éboueurs qui font pas, mais il faut bosser un peu plus longtemps, puisqu'on vit plus longtemps. Et comme c'est à répartition, c'est ceux qui évidemment travaillent payent pour ceux qui évidemment ne travaillent plus. Mais comme on travaille plus pendant évidemment 30 ans de plus qu'on travaillait avant, bah évidemment les caisses, on en a besoin. Donc tout ce système-là est interrelié et c'est les deux faces d'une même pièce. Et ça, la DeFi, ou en tout cas tout ce qu'on appelle crypto-monnaie en dehors de Bitcoin, devient en fait cette monnaie dette qu'on pince à dire « je pense ». C'est comme une entreprise, hein, dans la seconde partie de ma présentation, j'explique, hein, au lieu qu'on appelle token, bah c'est des stock options ou des actions ou des parts ou de l'IPO au lieu de l'ICO, hein, c'est l'initiative public offer au lieu d'être une initiative coin offer. On a juste réinventé des termes qui sont dans le même point. Donc que vous ayez éventuellement investi dans Google ou que vous ayez investi dans FTX, bah sauf que dans FTX il y avait un abruti qui est parti avec la caisse. Bon, bah Google ont été un peu moins cons, ils ont évidemment été un peu plus loin et compagnie, mais ça ne change pas l'affaire que c'est des humains derrière, c'est des entreprises et ça se génère. Donc, pour par contre, évidemment, faire que la DeFi, c'est aussi pour avoir des prêts, pour avoir évidemment des choses qui ne sont pas reliées avec la banque, pour avoir des choses qui sont décentralisées, comme on l'a expliqué. Puis là, je ne veux pas rentrer après dans des contextes, parce que ça nécessiterait évidemment beaucoup plus de temps, mais en gros, pour aussi protéger un certain nombre de points des compagnies avec des protocoles, encore une fois, comme Circle, donc Coinbase, à un protocole qui s'appelle Circle et évidemment l'entreprise Circle derrière, et l'entreprise Circle a évidemment son protocole qui est adossé évidemment avec des stablecoins. Donc un stablecoin, il y en a plusieurs, hein, l'USDT, l'USDC, il y a des stablecoins algorithmiques, je vous laisserai aller voir ce que c'est. Donc on dit qu'en fait le stablecoin va lui-même de manière mathématique gérer. Donc il y a eu Terra Luna qui a été une vraie fiasco l'année dernière, qui malheureusement on a pu voir que on pouvait, comme ChatGPT, lui faire faire un DAN et puis lui faire faire n'importe quoi et le faire tomber. Le vrai stablecoin, comme l'USDC, l'USDT ou l'USDB, là, celui de Binance, mais surtout l'USDC, ils sont adossés au dollar en disant un stablecoin équivaut, donc un token, un jeton, peu importe comment vous l'appelez, équivaut à un dollar. Ça sous-entend. Et c'est pour ça que Circle était un de ceux qui sont les plus en vue, parce qu'il est audité, je dis pas tous les mois, mais c'est un de ceux qui est le plus audité au monde, doit avoir l'équivalent de, quand il émet un token, automatiquement il doit avoir le dollar en caisse. Il n'y a pas le choix. Donc ils avaient 44 milliards de dollars en caisse, qui est l'équivalent de la capacité du token à aujourd'hui. Donc, quand vous faites du DeFi, ou quand vous faites, je vends un bout de Bitcoin, des sats, ou vous vendez de l'Ether, ou après vous passez de l'autre côté, du côté des cryptos, des crypto-monnaies qui n'ont pas le Bitcoin, et que vous faites un peu de DeFi, bah de là, vous gérez dans la DeFi des prêts, des stacking, des lending, ça c'est un peu tous les termes de l'écosystème Web3 Monnaie, ça je vous laisserai ici aussi voir, mais en même temps, vous pouvez aussi se dire, bah tiens, moi j'ai fait un bon coup, ou là ça a été un peu de volatilité, ou j'ai fait mon APR, mon fameux retour évidemment d'investissement, et là bah, je me prends du stablecoin en attendant, au lieu de me ressortir ça en fiat monnaie, hein, la fameuse fiat monnaie, pour aller me racheter autre chose. Le problème de cet USDC, comme je vous le dis, il est évidemment adossé évidemment par rapport au dollar, puisque c'est un dollar pour un token, mais ces sociétés-là n'ont pas réinventé la poudre non plus. C'est que pour évidemment faire de l'argent, si ces gens-là, enfin toutes les personnes qui ont évidemment des tokens USDC, cette entreprise, il faut qu'elle fasse de l'argent, et c'est comme une banque. Et pour ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle adosse évidemment ce qu'elle a en termes évidemment de moyens, on parlait de 44 milliards de dollars, bah les ados avec à dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les place à court terme, à moyen terme ou à long terme? À moyen terme ou à long terme, c'est difficile si on est très volatile et que demain, il y a, je sais pas moi, X milliers de personnes ou des baleines qui décident de récupérer 10 milliards de dollars. Il va falloir les trouver. Si vous les avez posés à 3 ans, c'est soit vous perdez des trucs, un truc à 100 dollars que vous récupérez à 80, vous avez perdu 20, ils sont obligés de découvrir. Donc, l'idée qu'ils ont trouvée, c'est de poser ça en cash sur certains points. Donc, ils les posent en banque. C'est ça le truc bizarre, parce qu'il faut bien quand même avoir aussi une vraie banque pour évidemment les poser en banque. D'où l'aspect de la fameuse annonce qu'on va vous faire juste après. Mais en même temps, il faut aussi pouvoir acheter des bons ou acheter quelque chose qui soit rentable. Et en fait, ils achètent des bons au trésor. Donc, c'est des bons de pays qui durent la plupart du temps entre 2, 3 mois, 4 mois, ce qui leur fait évidemment eux aussi un retour d'investissement à 4, 5, 6, 7%, c'est à eux. Hein. Il y a des bons qui sont évidemment, puis là, il y a des professionnels derrière, puis c'est des professionnels de la finance traditionnelle aussi qui sont derrière pour les poser, pour dire, bah, on fait fructifier aussi l'affaire, puis il faut que l'entreprise, évidemment, gagne pour aller évidemment payer l'intégralité de l'infrastructure, l'intégralité aussi des salaires et l'intégralité aussi de faire tourner évidemment la machine. Tout ça est encore relié et on réinvente pas, on fait juste différemment. Sauf que c'est quand même toujours dans un état d'esprit de décentralisé et que bah, l'USDC, il n'y a pas une banque derrière. C'est un protocole mathématique qui est fait, mais comme je vous le dis, l'argent étant existant, faut bien qu'évidemment ça soit baissé. Le fait est, c'est que là, vous avez dû en entendre, si vous n'étiez pas dans une grotte depuis ces 10 derniers jours, qu'il y a eu 3 banques qui ont évidemment, la première était Silvergate, qui est une banque qui marche essentiellement, d'ailleurs, un des gars, le patron de Silvergate avait sonné la cloche au Nasdaq en 2013 ou 2014, mais bon, bref, c'était la banque, en fait, qui aidait l'intégralité de toutes les compagnies crypto-monnaies au sens large aux États-Unis à ce niveau-là. Il y a eu, et c'est une de ceux qui était le pire et qui a touché l'USDC, la SVB, la fameuse Silicon Valley Bank. Et puis la dernière, c'est One Signature qui a aussi été touchée. Parallèlement à tout ça, est aussi touchée des banques comme la Société Générale, la BNP, mais surtout la Crédit Suisse, parce que le Crédit Suisse, encore une fois, a fait d'autres conneries où ils ont investi là où il fallait pas. Puis à cause des inflations ou à cause de certaines banques qui ont déposé, n'a pas que touché le token. Elle a touché aussi d'autres banques, parce que je vous rappelle qu'il y a certaines banques, allez voir le mot banque systémique, vous verrez que certaines banques, s'ils sont systémiques, on fait partie de la TD, on fait partie de la Société Générale, la BNP, certaines banques françaises, certaines banques américaines, certaines banques canadiennes, la Royal aussi d'ailleurs. Bah là, ça veut dire que si ce genre de banque-là fermait, il y aurait un pan de la planète qui serait vraiment dans une sacrée mouise, pour pas dire autre chose, sachant que c'est systémique. Quand c'est systémique, c'est clair, ça part dans les deux sens et ça fait le fameux effet domino qu'on connaît. Donc, pour revenir à notre annonce, ces trois banques ont fait faillite. Pourquoi ? Bah, ces trois banques ont fait faillite. Pourquoi ? Parce que une des banques a malheureusement été problématique sur le côté de sa gestion. Ça, c'est Silvergate. Pour SVB, il y a eu un problème à cause des taux d'inflation et à cause du système où, en fait, si vous vous rappelez de ma première présentation pour ceux qui étaient là, comme ça pour ceux qui n'étaient pas là, Nicolas vous l'a dit, pour un petit médiocre pécule, vous pouvez avoir les le retour. Je fais quand même, il est en train de me faire des gros signes en me disant ouais, fais de la pub pour ça. ouais, génial. Non, c'est pour blaguer. Mais en tout cas, allez voir ma première présentation. Je vous précise que les banques, et surtout en tout cas les banques américaines, peuvent avoir ce qu'on appelle des réserves fractionnaires. Et les réserves fractionnaires, c'est que pour vous prêter 50 000 dollars, ils ne doivent prouver que d'avoir 10%. En tout cas, aux États-Unis, c'est 10%. Donc, s'ils prouvent qu'ils ont 5 000 dollars, ils peuvent prêter 50 000 dollars. Et c'est ça qui est complètement aberrant, parce que vous comprenez bien que ça fait un effet de Ponzi, quoi qu'on en dise. On peut se l'appeler comme on veut, ou un effet pyramidal. Mais d'avoir 5 000 dollars quand on vous prête 50, ça sous-entend que les 45 000 qui vous manquent, faut bien les avoir quelque part. Donc, c'est les déposants qui les ont, donc vous comme moi. Et puis surtout, les épargnants, puisque plus vous laissez l'argent à la banque, plus la banque va les gérer, puisque c'est cette banque-là qui va évidemment les prêter aux autres. Alors, c'est sûr qu'il faut qu'ils les prêtent, c'est tout un effet de logique, hein, puisque c'est réinvesti en toute logique dans le système. Mais vous comprenez bien, à l'inverse, que quand évidemment, là, vous avez une crainte sur une banque, ce qui a été le cas de la SVB, parce que qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est qu'elle, elle a aussi positionné, comme ce que je vous expliquais avant, avec le Circle, avec ses USD et USDC, c'est qu'ils étaient bien obligés, eux aussi, de faire de l'argent avec ça. Donc, ils ont acheté des bons américains, ils ont acheté des bons trésors, ils ont acheté des fonds d'obligation, mais à cause de l'inflation, à cause de ce putain de taux directeur qui monte à mort, hein, et que Monsieur Powell a pas décidé vraiment de nous faire des sympathies dans les mois à venir, bah, tous ces taux-là fait que si vous montez trop haut, bah, quelque chose que vous avez évidemment payé à 100 piastres, bah, pour le moment, il vous rapporte pas plus que les fameux 7% que vous aviez, mais il vous rapporte que 3%. Donc, c'est plus rentable, ou en tout cas, c'est plus autant faisable. Puis, si vous le vendez, est-ce que vous le vendez à perte? Parce que vous le vendez à un seuil d'arrêt qui, évidemment, c'était prévu, je sais pas, je dis complètement une bêtise, mais pour un an, mais vous le vendez à 6 mois, bah là, vous allez avoir une décote. Donc, au lieu de récupérer vos 100, vous allez peut-être récupérer 88 ou 90. Donc, tout ça génère évidemment tout un point où que quand les gens disent, bah là, moi, je vais récupérer mon argent. Bah là, le fractionnaire, les fameux 45 000 qui manquent, bah, ils sont pas en insolvabilité, mais ils sont en non-liquidité, parce qu'ils n'ont pas la liquidité. Puis quand vient évidemment que ça tombe automatiquement, évidemment, en liquidité, bah, ils deviennent en insolvabilité. Et c'est pour ça que la FDIC, comme nous, la SDIC, la notion de la fédérale, évidemment, des banques, enfin, le gendarme des banques qui fait que là, il met évidemment en point, a dit stop, et il a dit non, on met la SVB en truc, et on gèle la totale pour arrêter les trucs, parce que là, il va y avoir une épidémie, et puis ça va tomber évidemment encore plus grave, ce qu'il en est, et comme c'est assuré, bah normalement, la banque et la FDIC a ce qu'il faut en termes d'assurance pour au moins aller couvrir l'intégralité de l'argent des dépôts. C'est au moins une bonne chose. Alors, je ne sais pas si on ira jusqu'à là, mais pour revenir à notre histoire de Circle et USDC, ça veut dire que ce stablecoin-là, cette petite boîte de Circle avec 3,3 milliards de dollars du côté, évidemment, de SVB, donc la fameuse banque qui vient de fermer, mais donc là, si elle ferme, elle les a plus. Si elle les a plus, ça sous-entend que ce que je viens de vous dire, on appelle ça le PEG et le DPEG, donc la parité, prenez ça comme une parité, je sais pourquoi on avait PEG, mais je voudrais pas vous dire une bêtise, je crois que c'est une blague comme holdler, parce qu'un gars avait oublié le L avant le D ou le truc, puis ça a été une blague là-dessus, je vous laisserai aller voir, mais ça s'appelle PEG, DPEG, donc, ou la parité voulue entre 1 dollar, 1 USDC. Et à cause de cette parité 1 dollar USDC, bah là, ça tombe. Donc, évidemment, du fait qu'on dit, bah, il y a 3,3 milliards qu'elle a plus, bah, 44 milliards moins 3,3 milliards, est-ce que je peux? Donc, les autres disent, oh, moi, je revends mes USDC. Donc, les autres, faut qu'ils payent. Mais de l'autre côté, bah, ce qu'ils payent, bah, faut que les autres aillent aussi rechercher de la liquidité. Puis là, bah, ça dépègue en disant, bah, là, je descends à 90 centimes, 97 centimes, 94. Il est tombé jusqu'à 88. Et pourquoi il est tombé jusqu'à 88? Parce que ça s'est passé le vendredi. Et comme je vous l'ai dit lors des présentations, c'est aussi pour ça les anciens modèles et les nouveaux modèles, c'est que les nouveaux modèles, ou comme le système de finance décentralisée, ou l'intégralité, que ce soit crypto-monnaie d'un côté ou bitcoin de l'autre, c'est 24 heures sur 24, 365 jours, 7 jours sur 7, et ça fait, pour le bitcoin, 14 ans que ça dure, et ça fait pour tout le reste de l'écosystème crypto-monnaie, plus de 5-8 ans pour certains que ça dure aussi. Donc automatiquement, il n'y a pas d'arrêt. Je veux dire, c'est la nuit, le jour, le matin, le week-end et compagnie. Il n'y a pas de Swift, il n'y a pas de truc. Ah ben, excusez-moi monsieur, je suis fermé parce que je dois passer en week-end, mais les banques étaient fermées. Donc comme les banques étaient fermées, ils n'avaient pas de réponse le samedi et le dimanche, et les banques ne pouvaient pas jouer les ventes évidemment de ces fameux bons avant le fameux lundi matin, qui était le lundi là, de cette semaine, puisque Nicolas a avoué qu'on était le 17, donc je voulais pas machin, mais donc on est le vendredi 17, donc c'était le lundi de cette semaine, qui a permis justement à dire, donc il a fallu que le patron de Circle fasse une annonce quand même et approuve le samedi soir que de toute façon il allait faire ce qu'il fallait, que la FDIC lui avait précisé que de toute façon c'était assuré, et qu'il ferait ce qu'il fallait le lundi pour que lundi après-midi, l'USDC serait de toute façon, même ils prendraient sur leur réserve, que l'USDC, puis on parle quand même de gros sous, que l'USDC reviendrait au 1 dollar. Donc ça a baissé la pression de dimanche et ça a baissé le truc, mais ça n'a pas empêché les trois bombes de tomber, ça n'a pas empêché les autres de tomber, et ce qui est très drôle, et ça reprend évidemment, puis je suis assez content parce que évidemment vous avez vécu cette présentation il y a 15 jours, ce qui est très drôle, c'est que pendant que je vous parlais, le Bitcoin valait quoi ? À peine entre 20 000 et 23 000 dollars US en termes de coût. Et là, il est passé à 28 000 dollars d'un coup. Là. En toute logique, si je me permets, je le fais en live devant vous sur mon point de portefeuille automatique. Là. Je vais vous le dire en canadien, évidemment, si le logiciel a décidé de se connecter. Tiens, c'est la première fois qu'il est si long. Bien joué. Et puis là, si je le mets évidemment sur le point, hop, et voilà. Et donc là, sur la partie du Bitcoin à aujourd'hui, au niveau de la partie, il est en dollars canadiens, il est à 37 886. 37 886, quand je vous faisais la présentation, on dépassait même pas les 24 000 ou les 25 000 canadiens. Donc il s'est pris 10,5% en points. Alors pourquoi ? Parce que là aussi, c'est la suite des événements comme le Web3. Pourquoi ? Bah, comme je l'ai dit lors de mes présentations, il y a deux choses qu'on était sûres à date, vous vous rappelez, j'avais précisé, deux choses qu'on était absolument sûres à vie quand on essaie, c'était la mort et les impôts. La troisième chose qu'on était sûre, c'est qu'il y aura toujours, tous les 15 jours, 2016 blocs, un bloc tous les 10 minutes qui sera fait. Bah, cette notion-là, au bout de 14 ans, presque redonne de la confiance, et on voit que la monnaie ou on voit que l'argent est qu'une question de confiance. Et là, aujourd'hui, on s'aperçoit, en tout cas, beaucoup de gens au travers de l'USDC et de beaucoup de stablecoins, beaucoup de monde de la Web3, s'aperçoivent que, évidemment, la confiance est peut-être là où on croyait défaisait les choses, et le Bitcoin remonte, ce qui fait remonter en plus tout le reste, parce que lui, c'est quand même le king, c'est le lion de la jungle. Donc évidemment, tous les autres en profitent. L'Ether a aussi pris plus de 8%, tout le monde en bénéficie. Donc c'est pour ça que c'est intimement lié et que c'est toujours la même, c'est deux faces d'une même monnaie. Donc là où je veux en dire, c'est que ça m'a donné raison, dans le sens où, quand je dis ça m'a donné raison, c'est on est à l'aube de quelque chose technologique qui nous dépasse et qu'il faut obligatoirement prendre comme étant un moyen et surtout une aide, où n'oubliez pas que d'autres gens n'ont pas la chance comme nous de vivre dans un G8 ou un G7 et avec juste des adresses dans une rue, le fait de pouvoir prendre sa douche, de manger correctement, d'avoir des comptes en banque et j'en passe des meilleurs. On est en si normalement dans une démocratie suffisamment libertaire et une bonne démocratie par les institutions, ce qui n'est pas le cas pour à peu près, je vous rappelle, hein, 3,7 milliards de personnes sur la planète, sur les 8 qu'on est, et qu'il y a des gens qui sont évidemment maltraités. Je ne parle pas des femmes, je ne parle pas de la guerre, je ne parle évidemment pas des fameux 120, comme le Liban qui vit aussi une vraie... S'il n'avait pas de Bitcoin à aujourd'hui, ou même un certain nombre de crypto-monnaies à aujourd'hui, certaines personnes ne pourraient même pas vivre. La notion de la monnaie ou du troc ou une autre monnaie locale pourrait exister, ce qui est le cas d'ailleurs au Liban à certains endroits, parce qu'on repart sur les monnaies locaux qu'on invente, en fait, hein, comme le font d'ailleurs tout l'Afrique et tout le Centrafrique. Mais aujourd'hui, c'est évidemment le gros point, en se disant que c'est ça qu'il va falloir changer, parce que là, on peut plus, en tant que 8 milliards d'humains, se laisser avoir par un petit groupe qui font un peu tout et n'importe quoi, même en planche à billets ou même avec du fractionnaire ou jouer avec des milliards comme si que on jouait. Alors je sais, hein, de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, FTX, il y a aussi un abruti qui a décidé de jouer effectivement le truc. Mais bon, ça, malheureusement, des requins ou des débiles ou des voleurs, on en aura tout le temps. Ça, c'est propre de l'humain. Malheureusement, c'est un parmi tant d'autres, parce que ça ne doit pas empêcher qu'il y a aussi beaucoup de protocoles et beaucoup d'entreprises qui sont sérieuses et qui amènent quand même un autre débat là-dessus. Je parle de protocole AV, par exemple, protocole Polygon, Solana. Il y a des choses qui sont derrière, vraiment, avec des grosses, grosses valeurs qui sont importantes. Donc, c'est comme si je vous parlais de Microsoft, de Google, et pourtant, on ne crache pas dessus, hein, ou de Apple à aujourd'hui. Ce qui aurait été le cas dans leur temps à l'époque à ce niveau-là. Et puis le Web 3 apporte aussi, et ça c'est important, j'en ai parlé un petit peu, mais comme c'est la suite pour dire ce qu'il en était, c'est toute la partie du DAO. Et là, le DAO, c'est quelque chose que je n'ai pas malheureusement eu le temps, parce que comme je vous l'ai dit, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de choses au travers de l'écosystème du Web 3. Hein. Le Web 3, c'est les smart contracts, c'est le layer 1, layer 2, layer 3, c'est le DID, la décentralisation d'identité. Ça, c'est un des points que je pense qu'on reparlera au Polysécur d'ici peu du DID. C'est évidemment l'identité gérée comme un wallet, puisque ce sera ça le Web 3, avec évidemment la partie de la NFT. Hein. Les NFT sont des les non-fungibles tokens. Donc, les non-fungibles tokens permettent évidemment, au travers même des diplômes, mais même au travers du luxe et autres, puis ça, vous pouvez voir, mais au travers de ça, ça nous permettrait éventuellement d'avoir une identité beaucoup plus maîtrisée, beaucoup plus logique, et l'identification ou l'authentification derrière sera peut-être plus une key YubiKey, mais une wallet YubiKey qui fera que, puis là, je fais de la pub pour YubiKey pour pas en faire, mais que ça sera un wallet autre chose, qui fera que par défaut, ce sera éventuellement la possibilité de gérer son identité telle qu'on veut, parce que les métadatas devront passer par le wallet. Donc il n'y aura plus rien qui traînera sur le net, puisque le net est décentralisé, ou le peu de net qui sera centralisé sera obligé de se connecter sur ce wallet. Donc vous comprenez que ça change un peu. Et le DAO, c'est The Decentralized Autonomous Organization. Donc c'est les organisations autonomes décentralisées. Là aussi, c'est une nouvelle génération. Puis là, ça fait 2-3 ans, 4 ans, puis là, dans le monde crypto, c'est aussi géré. Ça sous-entend en plus que l'entreprise est autonome, décentralisé aussi, pas avec un système. Et c'est pas parce qu'on est anarchique qu'on n'est pas hiérarchique, hein, et c'est pas l'anarchie qui crée le chaos, hein, attention, on n'a pas de notion de layer, c'est pas pour autant que ça marche pas, hein, ça je veux aussi, c'est pas de la dictature, c'est pas du chaos total, donc faites attention au niveau du terme. Mais la décentralisation autonomous organization, pourquoi les gens y vont de plus en plus? Parce que c'est une notion aussi où on donne le pouvoir à ceux qui vont faire partie de l'histoire de l'entreprise. Donc, du style de l'histoire de l'entreprise, peut-être qu'un protocole, quelque chose qui est fait, vous allez peut-être dire, bon, Alors après, il y a toutes les histoires philosophiques et compagnie, mais sur un sujet bien particulier qui est quand même, quand je dis philosophique, c'est parce qu'après, je parle pas de binaire, non-binaire, ou des notions de droit, de philosophie, ou de ça, je pense que c'est plus d'état. Puis attention, les lois ne sont pas en dehors de tout ça, hein. Les lois s'appliquent aussi, hein. Je tiens à le réviser, c'est pas parce qu'on est décentralisé qu'on n'a pas de loi. Ça aussi, il faut arrêter l'idiotie là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que ça donne le pouvoir aux gens de voter. Donc, les entreprises qui vont, la nouvelle génération des entreprises du Web 3 et du Web 4 vont faire que les gens participent. C'est participatif au travers du vote sur ce que vous allez faire, au travers du protocole ou au travers parce que vous avez des tokens, parce que vous avez des droits, c'est ce qu'on appelle le fameux staking, hein, dans les smart contracts. Vous avez des droits, vous pouvez les isoler en disant, voilà, on prend telle direction, bah, c'est pas, quatre super élites dans un coin ou des gens qui ont importé des trucs et compagnie, c'est que s'il n'y a pas la communauté qui dit oui, un peu comme un open source qui pourrait évidemment le gérer, hein, c'est le papa de l'open source, mais en mode entreprise, bah là c'est pareil. C'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle, lors de la présentation, j'ai présenté le soft fork et le hard fork. Bah, c'est là où on a évidemment un gros distendu là-dessus, c'est que le hard fork veut dire que là, la blockchain va se céder. Et puis, il va y avoir une autre vie d'une autre blockchain qui va prendre évidemment la tangente sur le nouveau modèle. Puis, bah, ce nouveau modèle, s'il est accepté, bah, c'est super, c'est lui qui va prendre la main. Un petit peu comme a fait Ethereum avec évidemment là, le proof of stake. Mais peut-être que comme le Bitcoin, avec Bitcoin Cash et Bitcoin Direct, bah, le Bitcoin Cash est un raté total parce que personne n'a suivi. Le marché est toujours parti sur le bon Bitcoin de l'origine et qui n'a jamais changé et qui a été fait. Mais il y a du soft fork quand même dedans. C'est-à-dire qu'il y a des améliorations de système où là, ça nécessite pas une cassure de blockchain pour pouvoir le faire. Donc, tout ça se génère par une décentralisation d'organisation, donc autonome dans cette organisation. Et les entreprises, à aujourd'hui, les plus en vue physiques de l'ancienne génération, sont en train de se dire, ça serait pas con aussi de dire, vous voyez, un Facebook, dire, je voudrais rajouter telle option, machin, ben non, on veut un vote de décentralisation de communauté avec une aide de ça. Ben, ça fait partie de se dire non, on n'est plus les acteurs à se nourrir et à nous piquer toutes nos données et compagnie, on veut aussi nous participer évidemment au système. Puis ça amène un dernier point, deux derniers points, n'oubliez pas évidemment le Nostr par exemple, hein. Nostr et Nostr est un nouveau système de décentralisation pour faire du réseau social. Nostr est en train de prendre une tangente presque à la verticale tellement qu'il fait évidemment le point. Vous avez dû entendre parler de Mastodon. Mastodon permet de faire évidemment des live Twitter, puisque l'autre il est devenu complètement dingue avec son Twitter, donc évidemment tout le monde se barre à droite et à gauche. Donc là évidemment pour Mastodon à aujourd'hui, même Mastodon, quand ils ont vu Nostr avec la décentralisation, la blockchain, l'idée qui est derrière, même Mastodon a dit on pense qu'on va pas abandonner Mastodon, mais en tout cas reprendre Mastodon pour aller dans Nostr aussi. Donc c'est pour cette raison, c'est important de voir qu'il y a tout un changement philosophique aussi qui fait. Il y a même des sociétés qui disent, bah, vous voyez, j'ai inventé Mastodon, mais pour le coup, j'ai trouvé aussi mieux, si ce n'est même mieux, bah, pourquoi je partirais pas ça? Donc, je pense effectivement que là, il y a un changement de paradigme, il y a un changement de philosophie, il y a un changement de la nouvelle génération qui veut plus être gérée par des vieux schnocks qui montent avec le temps et qui évidemment sont des vrais cons parce qu'à 50 balais ou à 60 balais, on n'a pas de vision sur le futur parce que c'est déjà fini, puis qu'on a déjà fait notre truc, puis qu'on ne veut pas piquer notre fric, et puis que de l'autre côté, la vie est quand même à ceux qui démarrent de 15 ans à 45 ans et que c'est eux qui doivent évidemment gérer. Je prends des trucs d'âge, mais ça pourrait être un peu plus vieux vu qu'on va vivre plus vieux, mais je veux dire, c'est des choix qui sont qu'on ne veut pas non plus qu'un type qui a perdu le fil de la technique ou qui a perdu le fil de la réalité de vie classique puisse éventuellement nous dire comment la nouvelle vie en 2023, parce que c'est tout ça qui nous a pourri la vie pendant tout l'être humain, que ça soit dans les notions de droit, d'histoire, de religion, ou des choses de religion qui s'est passé il y a 2000 ans, mais qu'on en fait en 2023, je suis désolé, on a des frigos, à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, effectivement, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas manger. Je n'irai pas plus loin, mais je pense que vous avez compris. Donc, oui, c'est sûr, il y a des problèmes. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut croire que c'est toujours la vérité pour aujourd'hui. Donc, c'est tout ça qui fait que c'est l'éducation, la formation, la gestion de toute cette nouvelle philosophie technologique qu'on peut faire désormais. Parce qu'évidemment, tout ça, ce que je vous dis, c'est qu'il y a encore 10 ans ou 20 ans, on ne pouvait pas. Mais là, maintenant, on vit avec, et puis c'est trop tard. C'est tellement inter-entremêlé. Le cloud public a pris tellement de pas où maintenant, il a conquis toute la planète avec leurs 60 régions à peu près communs à chaque. Donc, tout ça étant géré, bah maintenant, il faut suivre la suite. Pour finir, et je terminerai avec ça, déjà 9, puis je terminerai avec un dernier point. Puis ça, ça me fait plaisir. Parce que en plus, je vais faire un petit peu de pub pour Sam Tchegoui, un Français, Samy, mais j'espère qu'il... je lui enverrai éventuellement le point, mais ils ont lancé Cross of Ages. Donc, j'espère que je le dis proprement en anglais, mais c'est l'âge croisé des chemins, hein, enfin, croisé des âges. Donc, Cross of Ages, vous irez voir éventuellement pour ceux qui adorent tous les styles de jeux, MMORPG, TGT, enfin, moi, j'y connais pas grand-chose non plus, mes collections de cartes et je sais pas quoi. Je crois qu'il a pris, ça fait 3 ans qu'il est dessus en même temps, puis c'est un gars qui a fait ça, c'est toute son équipe, ils ont fait ça depuis, ça fait 20 ans qu'il est là-dedans et compagnie, et puis il a pris les meilleurs. Hein. C'est 100 gars en termes d'écriture de scénario, c'est les meilleurs en termes de dessinateurs aussi, il y a même des gars, il y a même des groupes, de gros groupes qu'on connaît aujourd'hui qui aimeraient bien avoir ces gars-là, puis que ces gars-là disent non, c'est dans 3 ans que vous m'aurez, puis oui, il les a et compagnie. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est bon. Et là, pourquoi je vous en parle? C'est parce que le type a complètement vu la notion NFT, la notion Web3, la notion blockchain, la notion truc. Vous allez participer au jeu d'une manière où, que vous soyez joueur, que vous soyez collectionneur, que vous soyez trader, que vous soyez même éventuellement à être juste spectateur, le fait de participer, peu importe où vous vous trouvez là-dedans, et sachant que vous allez trouver votre intérêt, ou en tout cas votre jouabilité au travers de ça, et au travers des trois mondes, parce qu'en plus c'est des bouquins, c'est tout un scénario, il a fait en plus, il était malin, il a fait comme J.K. Rowling, il a écrit le dernier bouquin pour évidemment revenir au premier, hein, comme Harry Potter. Donc là, le fait est, c'est qu'ils ont vraiment une histoire sur 7-10 ans, vous voyez ça très très loin, et là, ils font quoi? Ben, ils font tout en système comme le fameux Web3, Web4, c'est-à-dire ils font tout en crypto, où là, cette fois-ci, et puis là, je vous laisserai aller lire, aller voir, vous avez toutes les informations, mais vous allez être payé pour jouer. Vous ne perdrez pas un coup de carte, c'est pas parce qu'une carte que vous l'avez et autres, les cartes vont se mixer entre elles. S'ils se mixent entre elles, même des anciennes cartes qui valaient plus rien vont valoir quelque chose, parce que celle-là qui valait très cher va se mixer avec une nouvelle et ainsi de suite. Pour toujours avoir de la vie qui fait qu'à chaque fois ce jeu va être un investissement. Et ce jeu étant un investissement fait que si vous jouez et que vous êtes des aficionados de jeu, ou d'habitude quand vous jouez, c'est juste votre satisfaction, vous avez payé et puis vous jouez béco, et en voir, merci, t'as pour tes yeux pour pleurer, mais t'as dépensé des lustres ou t'as dépensé des tonnes de pognon comme Overwatch a acheté je sais pas combien et que tu peux plus quoi en faire. Non. Là, vous avez vos cartes sont des tokens, il vous dit comment gérer, vous pouvez les échanger, vous pouvez les trader, il y aura toute une vie au complet, ça sera comme si vous payez pour jouer en même temps, puis en même temps, vous avez aussi la possibilité de regarder les autres, puis de dire, moi, au fait, j'ai une carte, je joue pas, ça vous intéresse, vous pouvez trader aux enchères, et en plus, ce sera sur différents mondes, entre le MMORPG, le TGT et compagnie. Donc, vous imaginez, il y a déjà des gars, ça fait 3 ans, qui sont déjà en train d'inventer le jeu de 2030, là. C'est ça que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est juste de dire, on est déjà en retard de que le fait que je vous en parle aujourd'hui, le 17 mars 2023. C'est ça mon point aujourd'hui, que c'est important, et que le peu que je vous aurais éventuellement volontairement à dire, intéressez-vous si vous voulez pas être has-been, parce que moi j'ai pas envie d'être has-been même à mes 60 balais à 30 balais. Là, il faut évidemment se bouger le cul, parce que on disait la même chose en 90 pour Internet, on disait la même chose en 70 pour ARPANET, on disait la même chose pour le téléphone en 80, on se disait la même chose pour la télévision dans les années 50. Et tout ça a prouvé que c'était tout l'inverse qui est arrivé. Donc, je vous laisse sur ça. Je pense que oui. Ça fait le tour pour la suite. En tout cas, pour le Web3, je vous laisse aller voir évidemment la suite spatiale du Web3 et du WebOS, hein, puisqu'en fait, on parle déjà de WebOS. Et puis, je pense que, effectivement, la suite du Web4 va être 2020-2030. Tout le monde dit que le Web4, c'est pour cette décennie. Vous imaginez, on n'a déjà même pas digéré Web3. D'ailleurs, Nicolas me disait dernièrement que les gens étaient en train de se déchirer la chemise pour le ChatGPT-3 et on est déjà à la ChatGPT-4. Alors, c'est pour vous dire à quel point l'IA nous rattrape à plus.
C'est ça, les gens n'ont même pas fini d'être outrés de la version 3, que la version 4 est déjà là. Sont déjà...
C'est ça. Alors, vous imaginez, on a passé une Web3 3 qui passe de 2010 à 2020 pour les technologues. Et puis pour certains, ils disaient « Ah bon, la Web 3, c'est où la Web 3? J'en fais en 2023. » Mais non, on est en Web 4, t'as déjà raté un train. Là. Donc c'est ça que j'essaye aussi de vous dire. Le but du jeu d'un technicien comme on est ou des technologues comme on est, c'est de ne pas être réfractaire au changement. Et surtout un hacker, c'est comme un Navy Seals, s'adapter, improviser, dominer. Restez avec ça et je vous souhaite en tout cas une excellente soirée et un super week-end. Merci pour l'invitation, Nicolas.
Merci énormément.
Bye bye, les amis.